Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Le Saint-Jeanois, Le Quotidien, Le Soleil, La Voix de l'Est et La Presse. Au programme, de nombreuses personnalités noires marquantes au Nouveau-Brunswick. Les temps sont durs, mais... À quand une place pour votre enfant? Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton et parler du suicide au lieu de censurer. Bonne écoute!
De nombreuses personnalités noires marquantes au Nouveau-Brunswick. Un texte de Jonathan Poirier, paru dans le Saint-Jeanois du Nouveau-Brunswick, non daté. Chaque année, en février, les célébrations du mois de l'histoire des Noirs mettent en lumière la contribution des Canadiens de descendance africaine à notre société. Plusieurs personnalités noires ont fait leur marque au Nouveau-Brunswick. Ralph Thomas est une véritable mine d'or de connaissances sur l'histoire des Noirs de la province. En plus de présider l'organisme Proud Incorporé, Pride of Race, Unity and Dignity through Education, il est coordonnateur de projet chez New Brunswick Black History Society. Les murs de son bureau, situé au centre-ville de Saint-Jean, sont tapissés d'illustrations et de photos consacrées aux contributions des néo-brunswickois de descendance africaine. En entrevue, M. Thomas a tenu à rappeler le parcours de quelques-unes de ces personnalités noires marquantes. Mathieu D'Acosta. Méconnu du public, le Portugais Mathieu D'Acosta est la première personne d'origine africaine à avoir mis les pieds en Amérique vers 1606. Il était un homme libre ayant appris la langue des Mi'kmaq. D'Acosta a été un acteur clé dans les relations entre les premiers colons acadiens et les Premières Nations. Selon Poste Canada, qui a émis un timbre spécial en son honneur en 2017, ses talents d'interprète lui ont permis de signer un contrat afin de travailler pour le marchand de fourrure, explorateur français et gouverneur d'Acadie, Pierre Dugas de Mons. M. Thomas ajoute aussi qu'il aurait été l'interprète de Samuel de Champlain lorsqu'il a exploré la baie de Fundy. Abram Beverly Walker. Sinon, saviez-vous que le premier avocat noir au Canada était originaire de la péninsule de Kingston? Né en 1851, Abram Beverly Walker a étudié à la St. John Law School. Il a officiellement obtenu son titre professionnel en 1881. Selon Peter Little, auteur d'un livre sur ce personnage historique, Walker a ouvert son bureau à Saint-Jean, sur la rue Princess. Son bureau était situé à l'endroit du pub O'Leary's. Ayant peu de succès à obtenir des clients en raison de la couleur de sa peau, Abram Walker décide d'être un activiste plus actif. Il a lancé le premier magazine néo-brunswickois publié par une personne noire, Neith. Tirant son origine de la déesse guerrière Neith dans la mythologie égyptienne, ce magazine était une publication militante en matière d'égalité et de défense des droits des Noirs. Pour reconnaître la contribution historique d'Abram Walker dans la province, l'Ordre du Nouveau-Brunswick lui a été décerné à titre posthume en 2019. Lena O'Ree. En matière de droit civique, M. Thomas raconte qu'une grande pionnière dans la région de Saint-Jean est Lena O'Ree. En 1931, dès l'âge de 17 ans, elle devient la première animatrice de radio noire. Lorsqu'elle a voulu rejoindre le YMCA en 1936, on a refusé de l'inscrire. On lui a demandé qu'elle trouve 10 autres femmes noires pour créer un groupe. Elle n'a été nullement découragée et a trouvé tous les membres nécessaires parmi ses amis. Elles ont formé le premier groupe de femmes noires à avoir intégré le YMCA au Canada. Plus tard, dans les années 1950, elle a commencé à travailler à l'hôtel Admiral Beatty. Les personnes noires n'étaient cependant pas autorisées à entrer par la porte avant du bâtiment. Pour protester contre cette discrimination, elle a commencé à utiliser cette porte pour aller travailler. Elle est même allée jusqu'à demander qu'on autorise les personnes noires à avoir le droit de fréquenter la salle à manger. Lena O'Ree est aussi l'une des membres fondatrices de l'organisme Prude Incorporé. En 1998, on lui a remis le prix des droits de la personne du Nouveau-Brunswick. Athlètes et artistes. Étant lui-même un boxeur reconnu au Nouveau-Brunswick, Ralph Thomas tient à citer deux athlètes majeurs pour leurs impacts dans le domaine du sport. Originaire de Fredericton, le sprinter Eldridge Eatman a battu de nombreux records professionnels au début des années 1900. Une autre personnalité sportive marquante est Willie O'Ree. Il a été le premier joueur de hockey noir autorisé à jouer dans la Ligue nationale de hockey. La liste ne s'arrête pas là, au contraire. Le milieu culturel de la province a également profité du talent de personnalités noires. Les frères James et George Bowie, natifs d'Indian Town, au Nouveau-Brunswick, sont devenus instructeurs de banjo du Prince Albert dans leur studio londonien après leur déménagement en Angleterre. C'était de nombreuses personnalités noires marquantes au Nouveau-Brunswick. Un texte de Jonathan Poirier paru dans le Saint-Janois du Nouveau-Brunswick, non daté.
Les temps sont durs, mais... Une lettre de pignon de Sonia Côté, coordonnatrice de Loge M'entraide, parue le 23 décembre 2022 dans Le Quotidien. Devant l'inflation galopante des derniers mois, les temps sont durs pour grand nombre de personnes, encore plus pour celles qui n'ont aucune marge de manœuvre financièrement. Oui, les temps sont durs, particulièrement pour les personnes appauvries qui doivent affronter le coût de la vie désordonnée, incluant le coût des loyers. Les temps sont durs pour 1612 ménages locataires à Saguenay qui ont des besoins impérieux de logement, vivant dans un loyer trop petit, trop cher et ou de mauvaise qualité. Les temps sont durs face aux injustices qui passent sous nos yeux, où pouvoir et argent dominent sur le bien commun, le partage, l'entraide et l'équité, et viennent écraser sans vergogne les appauvris. Les temps sont durs pour nos fidèles militants qui, depuis 9 ans, luttent avec cœur et courage pour fonder leur coopérative d'habitation, La Solidarité, et ne reçoivent qu'indifférence et mépris politique. Oui, les temps sont durs sur bien des facettes. Alors, quel message offrir à toutes les personnes locataires dont le cœur est si triste? Loge M'entraide offre donc toute sa solidarité, sa persévérance et son espérance. Que toujours nous porterons et défendrons votre voix, vos droits et vos intérêts haut et fort. Que nous nous battrons encore et encore pour que vous soyez logés dignement. Oui, les temps sont durs, mais serrons-nous les coudes encore plus fort et gardons courage. N'oublions jamais que, citation, « même sans espoir, la lutte est encore un espoir ». Fin de citation, Romain Rolland. C'était « Les temps sont durs, mais... » Une lettre d'opinion de Sonia Côté, parue le 23 décembre 2022 dans Le Quotidien.
une place pour votre enfant. Un texte d'opinion de Catherine Gaudreau, paru le 23 décembre 2022 dans Le Soleil. Je ne vous apprends pas aujourd'hui que toutes les régions du Québec sont frappées par une pénurie de places en garderie. Environ 37 000 enfants attendent une place présentement au Québec et aucune région n'est épargnée. Vous êtes peut-être vous-même dans cette situation actuellement. Une réalité qui force des parents à demeurer à la maison avec leur enfant beaucoup plus longtemps que prévu. Récemment, je discutais avec un couple de la région qui me racontait leur vie au quotidien. Johan et Myriam ont dû revoir leur plan de match. Lui est retourné au travail après 5 semaines de paternité à l'automne 2021, mais sa conjointe, bien que son congé de maternité soit terminé, n'a pas pu reprendre son boulot à temps plein. Elle me dit « Heureusement qu'il y a le télétravail, ça me sauve la vie, mais c'est quand même difficile. Il faut expliquer que leur enfant a un retard de développement, ce qui complique les choses. » Le couple avait trouvé une place dans une garderie privée, mais en raison des besoins spécifiques de leur enfant, on leur a expliqué qu'on n'avait pas les ressources pour répondre aux besoins du bambin de 14 mois. Ils doivent maintenant attendre une place subventionnée, comme plusieurs autres à travers le Québec. Myriam me raconte que ses journées débutent à 4h30 et se terminent parfois aux alentours de 23h. « Je n'ai pas le choix, » me dit-elle. « Mon enfant demande beaucoup de soins et j'ai un travail que je dois accomplir. Je suis épuisée. » J'aimerais que le gouvernement comprenne que je ne pourrai pas faire ça encore longtemps. Myriam reconnaît la chance qu'elle a d'avoir un employeur compréhensif et flexible. Elle me dit « Je sais bien que ce ne sont pas toutes les femmes qui ont cette chance-là, mais je commence à être fatiguée. » Un autre couple me racontait l'automne dernier avoir dû revoir complètement sa façon de faire. Fabienne a dû laisser son emploi il y a 1 an. Elle a fait le choix de demeurer à la maison pour s'occuper des enfants âgés de 1 et 3 ans. Cette dernière ne sait pas quand elle pourra retourner travailler. Elle me raconte « On a moins d'argent. Il faut tout calculer, surtout avec tout ce qui augmente. Ça demande une rigueur et une gymnastique incroyables. Mais mes enfants sont heureux et c'est ce qui compte. En ce qui concerne ma carrière, je n'y pense pas trop. » Fabienne travaillait dans le domaine de la santé. J'aimais beaucoup mon travail, ça me manque parfois. J'y retournerai peut-être un jour, dit-elle. L'organisme Ma Place au Travail, qui milite pour un accès pour tous les enfants à un service de garde, est débordé d'appels et de messages via les réseaux sociaux de parents découragés qui ne trouvent plus de solution. Des parents qui ne vivent maintenant qu'avec un salaire, parce que l'un des deux doit demeurer à la maison pour s'occuper du poupon. J'entendais récemment la nouvelle ministre de la Famille, Suzanne Roy, en entrevue à ce sujet. L'ancienne mairesse de Sainte-Julie entend les cris du cœur des parents. Elle souhaite mettre en place une politique nationale d'admission en service de garde pour que les règles soient les mêmes pour tout le monde. C'est un projet ambitieux. Souhaitons qu'elle ait les coups des franges pour y parvenir. Revenons maintenant un peu en arrière. Depuis que le grand chantier pour les familles a été lancé il y a 1 an, on ne peut pas dire que les résultats sont impressionnants. Même la nouvelle ministre le reconnaît, 8 940 places ont été créées dans la dernière année. C'est bien loin des promesses faites par la CAQ à son arrivée au pouvoir il y a 4 ans. Même la vérificatrice générale Guylaine Leclerc dénonçait la situation dans son rapport. Et que dire du site La Place 05 ans, qui a reçu des tonnes de critiques depuis sa mise en place? Combien de prestataires ont contourné les règles pour accueillir des enfants qui n'étaient pas sur la liste? Plusieurs. Une politique nationale permettrait aux parents de savoir où ils se retrouvent sur la liste d'attente. Il me semble que c'est une base, non? On aurait dû agir de cette façon-là bien avant. Comme la ministre Roy le disait récemment, ça sécuriserait les parents. Toutes ces nouvelles idées sont excellentes, mais le temps joue contre les parents. Réalistement, Cette nouvelle liste d'attente devrait voir le jour dans 2 ans. Pour les parents avec de jeunes poupons, ça veut dire trouver des solutions à court terme avec les moyens du bord. Plusieurs se sont tournés vers un milieu familial dans les dernières années, mais encore là, ce n'est pas la solution à tout, parce que plusieurs ont dû fermer leurs portes par manque de ressources. Chers parents, j'aurais aimé vous dire que vous aurez une belle surprise bientôt, mais ce ne sera pas le cas. Il va falloir s'armer de patience encore pour un bon bout de temps. Il y a des grands-parents qui ne chômeront pas encore cette année et qui seront très sollicités pour s'occuper de leurs petits-enfants. Et ça, c'est quand les proches sont disponibles, ouverts à venir aider. Ce n'est pas le cas dans toutes les familles. Certains parents n'ont pas ce luxe-là à proximité. Après ça, on se demande pourquoi le taux de natalité est aussi bas au Québec. Quand tu évalues la possibilité que ton enfant ne puisse jamais avoir accès à un service de garde, mettons que ça freine l'élan pas mal. C'était « À quand une place pour votre enfant? » un texte d'opinion de Catherine Gaudreau, paru le 23 décembre 2022 dans Le Soleil. Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton. Un texte d'opinion de Liane Bruno, paru le 28 novembre 2022 dans La Voix de l'Est. En réponse au processus de consultation citoyenne Rêvons Sutton, qui vise l'aménagement de son noyau villageois et face au futur incertain du centre John Sleet, une forte vague de soutien émerge pour un centre communautaire à Sutton. En effet, un groupe de travail a été formé et plus d'une vingtaine d'organismes locaux ont signé et fait parvenir une lettre à l'ensemble du conseil municipal, revendiquant ainsi la nécessité d'un centre communautaire à Sutton. Parallèlement, un nouveau groupe Facebook pour un centre communautaire à Sutton voit le jour et en quelques semaines seulement atteint plus de 230 membres. Parmi les 23 signataires de la lettre déposée, comptent des organismes œuvrant dans différents domaines, mais ayant tous de fortes valeurs communautaires. Jardin d'enfants, Maison des jeunes Le Spot, CAB Sutton, Coop Gym Santé Sutton, FADOC Les Deux Monts, Bibliothèque Sutton Library, Solidarité Environnement Sutton, Soccer Sutton, Sutton Youth Softball, Galerie Art Plus, Musée des communications et d'histoire de Sutton, Les Arts à la montagne, Sutton Jazz, Corde à vent, Ballet Jazz Sutton, Sutton en blues, Société d'histoire Héritage Sutton, Légion royale canadienne de Sutton, D'art et de rêve, Ballet Théâtre Sutton, Art Sutton, Festival de violon traditionnel Sutton et Parc d'environnement naturel de Sutton, PENS. Ralliés autour d'un message commun, ces groupes souhaitent que leur missive soit entendue par la municipalité. Concrètement, les organismes réclament un futur centre communautaire qui figure de façon centrale dans le développement du noyau villageois, un engagement financier de la ville dans le budget 2023 pour l'étude du dossier centre communautaire de Sutton, un processus d'idéation dans lequel nous pourrons être collectivement partie prenante plutôt qu'uniquement consultés dans le cadre de rencontres individuelles sur une plateforme web ou par sondage. Un engagement clair envers les organismes du centre John Sleet qui doivent se relocaliser à court et moyen terme afin qu'ils puissent continuer de dispenser sans interruption les services offerts à la communauté. Bon nombre d'organismes signataires croient à la création de ce centre communautaire comme étant la meilleure solution à long terme pour assurer la pérennité et l'essor des organismes et de meilleurs services à l'ensemble de la communauté. La création d'espaces multifonctionnels efficaces et accessibles permettra d'optimiser leurs ressources financières et humaines, de côtoyer quotidiennement leurs concitoyens et concitoyennes et de faire rayonner leurs actions. Selon Liane Bruno, présidente de la Coop Gym Santé Sutton, il est possible de répondre aux besoins urgents d'un centre communautaire à Sutton avec la participation financière de la ville, des gouvernements provincial et fédéral et de notre communauté. Et nous sommes tous prêts à mettre la main à la pâte. En vue du sondage citoyen prévu par la ville de Sutton le 30 novembre 2022, le groupe de travail se dit préoccupé. Il invite les citoyens à rejoindre le mouvement en faveur d'un centre communautaire en participant au sondage et en rejoignant le groupe Facebook pour un centre communautaire à Sutton. L'option d'un centre communautaire centralisé devra être présentée de façon impartiale dans le sondage de la ville afin de permettre à la population et aux organismes de se prononcer, affirme Lisa Baum, coprésidente du Jardin d'enfants. Enfin, Mme Bruno souhaite que cette démarche permette à l'ensemble du Conseil de participer pleinement à l'avancement du projet pour qu'un centre communautaire à Sutton soit plus qu'un rêve. C'était « Forte mobilisation pour un centre communautaire à Sutton », un texte d'opinion de Liane Bruno, paru le 28 novembre 2022 dans La Voix de l'Est.
Parler du suicide au lieu de censurer. Un texte de Robert Whitley, paru le 5 janvier 2023 dans la presse. Robert Whitley est professeur agrégé au département de psychiatrie de l'Université McGill et chercheur au Centre de recherche Douglas. De nombreux médias ont rapporté la nouvelle selon laquelle le ministère de la Santé du Québec demande aux enseignants et aux bibliothécaires de ne pas recommander ou même de ne pas parler aux élèves du roman de François Blais, « Le garçon aux pieds à l'envers », les chroniques de Saint-Sévère. Cette recommandation repose sur la conviction que la lecture de ce roman peut susciter des comportements suicidaires chez les élèves. Cependant, il est important de noter que de nombreuses œuvres classiques de la littérature mondiale comportent un suicide. Par exemple, Madame Bovary, Roméo et Juliette et Anna Karénine, pour n'en citer que quelques-uns. L'exposition au suicide chez les étudiants qui consultent des œuvres littéraires n'est pas un phénomène nouveau. En fait, plusieurs études scientifiques ont examiné les suicides par imitation après exposition à un suicide fictif. Un récent article de synthèse a conclu que les résultats suggèrent que les données actuelles ne soutiennent pas la théorie de la contagion du suicide par les médias fictifs. Un autre article de synthèse a constaté un taux légèrement plus élevé de suicide par imitation après un suicide fictif. Ces deux articles notent que les études existantes présentent de nombreuses faiblesses méthodologiques et qu'elles se concentrent presque toutes sur les suicides fictifs au cinéma ou à la télévision, plutôt que dans la littérature. En ce qui concerne la littérature, un article séminal a conclu « Il n'existe pratiquement aucune analyse systématique des effets d'imitation du suicide dans la littérature sur le suicide. » En tant que tel, il semble que les preuves soient insuffisantes pour faire des déclarations concluantes sur l'exposition au suicide dans la littérature et le suicide par imitation. En effet, il se peut que les orientations du ministère de la Santé soient fondées sur une croyance bien intentionnée, mais erronée, selon laquelle le simple fait de parler du suicide encourage le comportement suicidaire chez les autres. En fait, plusieurs études ont réfuté cette croyance désuète, des recherches récentes indiquant qu'une discussion ouverte peut effectivement réduire le nombre de suicides. C'est particulièrement le cas si cette discussion est axée sur des messages d'espoir, de résilience face à l'adversité, de rétablissement de la maladie mentale, de maîtrise des crises et d'informations sur les ressources de prévention. cela soulève une question plus large qui doit être discutée. La société et ses institutions doivent parler davantage du suicide et, surtout, de sa prévention. Aucune question de santé publique n'est résolue par le silence, mais de nombreux intervenants préfèrent encore ignorer la question du suicide. Peut-être que le livre de M. Blais ouvre une fenêtre d'opportunité pour le ministère de la Santé et les centres de services scolaires de réévaluer leur approche globale de la question du suicide, et en particulier de penser à la prévention du suicide et aux programmes de promotion de la santé mentale. Une chose que nous savons, c'est que les jeunes discuteront probablement intensément du livre de M. Blais parmi leurs pairs sur les réseaux sociaux et en personne. Nous avons vu ce phénomène après 13 Reasons Why. Ainsi, il est d'une importance vitale que des enseignants et des experts expérimentés et responsables discutent du suicide et de prévention du suicide dans les établissements d'enseignement de manière solidaire et bienveillante, en axant la discussion sur un contenu porteur d'espoir et axé sur le rétablissement qui a été lié à une réduction des suicides. Au lieu d'être une menace pour la santé publique, le livre de M. Blais peut ouvrir des discussions très nécessaires sur un sujet longtemps considéré comme tabou par les enseignants, les éducateurs et la société dans son ensemble. C'était « Parler du suicide au lieu de censurer », un texte de Robert Whitley, paru le 5 janvier 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion, Justine Langevin, Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, André Lebeau et Francine Thériault à la recherche, Nicolas Zwartmann à la présentation et au montage.